Voilà, eh bien, j'espère que vous avez votre arme à la main. C'est donc l'épître aux Thessaloniciens que nous allons regarder ensemble au chapitre 1er et les versets 9 et 10. Alors, il y a quelques dimanches en arrière, donc quand c'était mon tour de prédication, je vous ai dit que nous allions vivre cette année, chaque fois que j'allais intervenir, vivre une explication de texte. Alors, on peut exposer les choses de Dieu de différentes manières, avec un sermon traditionnel, mais aussi le faire de cette manière, et qui est donc une réflexion sur le mot à mot ou sur les mots que contiennent le texte. Et donc, je vous invite à regarder dans votre Bible ces deux versets, et puis ensuite, nous essaierons d'en tirer l'essentiel. On raconte à notre sujet, dit Paul, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, et qui nous délivre de la colère à venir. En abrégé, vous êtes tourné vers Dieu pour servir le Dieu vivant et pour attendre des cieux son Fils. Dans nos textes, nous avons généralement quatre verbes, mais dans le texte original, il y en a trois. Et ces trois verbes nous parlent de l'expérience chrétienne, de ce qui devrait être ton expérience, mon expérience. Le premier verbe, c'est se tourner. Le deuxième, c'est servir. Le troisième, c'est attendre. Voilà donc trois verbes qui devraient être des marques de notre vie de chrétien, de notre vie de chaque jour. On raconte, nous dit le texte, comment vous vous êtes convertis. En fait, l'apôtre utilise un mot commun de l'époque pour évoquer cette expérience des Thessaloniciens. Il utilise le verbe « se tourner vers Dieu ». Au moment où il écrit ce texte, cela fait déjà des années que dans l'Église de Jésus-Christ, on utilise ce verbe, on utilise ces mots pour parler de la conversion. Déjà, Jean-Baptiste, Jésus, appelle les hommes à se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et ce mot « se tourner » est devenu dans le langage chrétien une sorte de mot technique pour parler de la conversion. Mais c'est donc là le sens premier du mot que l'apôtre utilise, se tourner. Se tourner, c'est changer de sens. Se tourner, c'est opter pour une direction. Cela signifie que les chrétiens, les hommes de Thessalonique suivaient un chemin, le chemin des hommes et des femmes de cette ville. ils allaient et venaient comme eux, ils adoraient des idoles, ils mangeaient et buvaient, ils vivaient exactement comme tous les Thessaloniciens. Et à un moment donné, ils ont entendu l'évangile, la parole de Dieu, et ils ont changé de direction. Ils ont opté pour une nouvelle vie. Avec d'autres mots, les textes bibliques nous parlent de la conversion. Et si, au début de l'évangile de Jean, nous avons cette expérience qui nous est décrite d'une manière très très belle, il est dit ceci, que la lumière, c'est-à-dire Jésus, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce texte particulier de l'évangile de Jean, il y a donc cet autre verbe pour parler de la conversion, accueillir. Et quand on regarde le dictionnaire, on découvre que accueillir, c'est ouvrir sa porte. Que accueillir, c'est recevoir chez soi. Il nous est ainsi dit dans cette image, une nécessité pour l'homme d'ouvrir la porte de notre être, la porte de sa vie, pour accueillir le Christ Jésus, pour accueillir cette lumière dans notre vie. Nous pourrions utiliser d'autres textes, mais ces deux passages suffisent pour affirmer un certain nombre de points. Le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est la liberté de l'homme. Dans ce texte où il est dit « Vous vous êtes tourné vers le Dieu vivant », eh bien, cela sous-entend qu'il y avait la possibilité pour ces âmes de Thessalonique de se tourner d'un côté ou de l'autre. Mais ils ont choisi volontairement une direction. Ils ont choisi de regarder en face Dieu. Et dans le deuxième texte, où il est parlé de la lumière, il nous est dit d'une manière très directe que la lumière est venue, c'est-à-dire que Dieu a fait le premier pas pour nous les hommes. Il est venu, il s'est présenté aux hommes, et à ce moment-là, des hommes libres, responsables, doivent ouvrir leurs portes, ouvrir ou fermer la porte de sa vie. C'est de la responsabilité de l'homme, de ta responsabilité et de ma responsabilité. Quand on écoute ces textes, eh bien, on découvre qu'il y a des choses qui dépendent de moi, qui dépendent de ma personne. Tous les textes bibliques sont là pour nous affirmer que Dieu a fait sa part, que Dieu a envoyé son propre Fils, le Seigneur Jésus, pour payer le prix de notre délivrance à la croix. Et que Jésus a pu s'écrier, après ces heures d'agonie, « Tout est accompli, le prix suffisant est payé, entièrement payé pour vous les hommes. » Mais par rapport à cet acte-là, par rapport à l'envoi de celui qui est la lumière du Christ, il y a une responsabilité personnel de l'homme de dire oui ou non au Seigneur. Et dans le texte que nous avons ici, il y a des mots dans l'original qui sont très forts. Vous vous êtes tourné vers Dieu en vous éloignant des idoles, ou loin des idoles. Et l'image que nous avons en lisant le texte dans l'original, c'est l'image d'un homme qui, quand il regarde le Christ, tourne le dos aux idoles. Et que c'est un choix volontaire de se tourner dans cette direction, et que se tourner dans cette direction fait automatiquement que l'on s'éloigne des idoles. Mais on pourrait dire que l'inverse est là également, que si je ne me tourne pas vers Dieu, eh bien, j'ai mes regards forcément tourné vers les idoles et mon dos est qui est dirigé vers le Seigneur. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit je regarde le Christ et tourne le dos aux idoles, soit je regarde aux idoles et tourne le dos à Dieu. C'est donc un avertissement qui est là, contenu très beau et très fort pour chacun de nous. À la lecture de ce texte, nous remarquons que ce choix de Dieu n'est pas un choix du bout des lèvres, que ce choix des Thessaloniciens n'est pas un choix qui n'engage pas. Quand ils se trouvent à la croisée des chemins en entendant la parole de Dieu, il leur faut choisir. Regarder Dieu et tourner le dos aux idoles ou continuer de regarder vers les idoles de ce temps. Et cela signifiait aussi tourner le dos au Seigneur. Pour les Thessaloniciens, choisir Dieu, c'est un tournant radical. Pour eux, c'était un acte concret. Le mot idole désigne d'une part les dieux païens, mais désigne aussi les représentations qu'ils avaient dans les temples de Thessalonique, les représentations qu'ils en avaient peut-être dans leur propre maison ou dans les rues de Thessalonique. Choisir Dieu, c'était choisir d'une manière publique de ne plus plier le genou avec les autres habitants de cette ville, de plier le genou devant des représentations injustes. Ici, et quand on regarde ce texte, vous vous êtes tourné vers Dieu, vous vous êtes converti en vous détournant des idoles. Ce texte nous dit ce qu'est une véritable conversion, ce qu'est un véritable engagement avec Jésus-Christ. Alors, il me faut atténuer mes propos en disant que certains peuvent se tourner vers le Seigneur, mais pas se détourner totalement des idoles. Ici, il est dit, n'est-ce pas, vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. C'était un acte concret, fort. Mais cet acte concret et fort, l'avez-vous fait également dans votre vie? Avez-vous choisi Dieu, mais en choisissant aussi de nous détourner de ce qui est injuste? Que d'hommes et de femmes choisissent le Seigneur, mais ont tant de mal à se détourner et des choses injustes. Et alors la vie devient difficile, parce qu'on ne peut pas vraiment servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas regarder d'un côté et de l'autre, nous amène à vivre à cloche-pied, à vivre d'une manière injuste. Il y a là un exemple et une invitation pour notre propre vie, que notre conversion devienne un acte clair et limpide pour tous ceux qui nous entourent. Or, je voudrais faire encore une réflexion, à savoir que dans le texte, il n'y a pas X possibilités, n'est-ce pas? C'est où on est d'un côté, où on est de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que quand on arrive à un carrefour, au carrefour du choix, on ne peut pas s'y arrêter à ce carrefour. On est obligé de s'engager d'un côté ou de l'autre au moment de la conversion, mais ensuite constamment dans notre vie, et dans les actes de chaque jour de notre vie. Se tourner vers Dieu, c'est, je le répète, montrer son dos aux idoles, se détourner des idoles, s'éloigner des idoles, être loin des idoles, comme nous dit le texte original. Mais nous tourner du côté des idoles, c'est, même en tant que chrétien, nous éloigner du Seigneur et suivre un chemin injuste. Après avoir évoqué ce premier verbe, se tourner vers Dieu, le deuxième. En fait, l'apôtre montre deux implications de la conversion. La première implication de la conversion, c'est servir le Dieu vivant et vrai. Et la deuxième implication, c'est attendre des cieux son Fils. Alors tout d'abord, servir. Le Nouveau Testament utilise plusieurs mots pour évoquer le service, pour évoquer le service de Dieu. Le mot que l'apôtre choisit ici nous parle de l'esclave, mais nous parle de nous hommes libres qui avons choisi de devenir des esclaves volontaires. Et le mot qui est choisi ici par Paul pour parler de servir nous parle davantage d'une attitude, d'un comportement. Ce mot évoque un engagement total, évoque un engagement qui conditionne tous nos actes de chaque jour. Tout ce que je le fais comme serviteur de Dieu. Quand je suis à la maison, au travail, à l'école, au volant de ma voiture, dans la cité, au contact des uns et des autres, je suis serviteur de Dieu et mes actes doivent traduire cet engagement qui a été le mien. J'ai choisi Dieu en tournant le dos au mal, en tournant le dos aux choses injustes. Il y a d'autres mots qui évoquent le service dans le Nouveau Testament et qui nous parlent davantage des actes. Ainsi, nous trouvons le mot diaconie dans le Nouveau Testament, un mot qui est utilisé très souvent pour parler du service. On parle de servir aux tables, mais même ce que je fais, la prédication, dans le texte biblique, c'est le service de la parole. Tous les actes que l'on fait sont des services pour le Dieu vivant et vrai. Et nous devrions réaliser que, en fait, nos actes de chaque jour devraient se vivre avec cette réalité: dans ce que je fais, je sers Dieu. Et que servir est un privilège, servir est une grâce. Si je m'engage à faire ceci ou cela dans l'Église, quel que soit l'acte, du service aux tables, à la parole annoncée, c'est un privilège et je dois le vivre comme un service pour le Dieu vivant. Je fais cela en son nom, je fais cela pour sa gloire. Le mot est très beau et très fort ici. Sauver pour servir le Dieu vivant. Ai-je conscience dans tout ce que je fais que c'est le Dieu vivant que je sers? Enfin, le troisième verbe sur lequel j'aimerais m'arrêter un peu plus, c'est le verbe « attendre ». Je me suis tourné vers Dieu pour servir le Dieu vivant, mais pour attendre des cieux son Fils. Or, parallèlement à cette notion de service dans notre vie de chaque jour, dans notre vie d'Église, il y a cette deuxième chose qui est mentionnée, et c'est l'attente du retour de Christ, en grec là, la parousie. Dans cette épître aux Thessaloniciens, l'apôtre va beaucoup parler d'eschatologie, du retour de Christ, des choses de la fin. Et c'est la première fois où nous avons dans ce texte de Thessaloniciens mention de ces choses de la fin. Et on découvre qu'une des dimensions de la foi du chrétien, de la vraie foi du chrétien, c'est cette dimension eschatologique, c'est cette attente qui est là dans le cœur et dans la vie du chrétien, cette attente du Christ. En fait, l'apôtre va évoquer deux phases. D'un côté, il va nous parler de ce retour du Seigneur, de cette attente qui est glorieuse et qui est bénéfique pour le croyant. Mais de l'autre côté, il évoque ce retour comme étant quelque chose de redoutable. Il évoque comme quelque chose qui est une colère à venir et une colère et qui va éclater. Tout d'abord, l'attente, le texte nous le dit, il s'agit d'attendre le Fils et pour attendre des cieux son Fils. Et c'est donc là ce qui devrait être dans notre vie. Fondamentalement, on n'attend pas des événements ou toutes sortes de choses extraordinaires, on attend la personne même de Jésus-Christ. Le mot qui est utilisé là, ou le verbe attendre, est un mot très fort en grec. Il nous invite à attendre patiemment. Alors, je sais que quelques-uns font du grec, et puis sont venus l'autre jour me chercher le bailli dans le bureau. Alors, le bailli, c'est le grand dictionnaire grec classique. Et quand on regarde ce dictionnaire classique et qui nous dit ce mot, eh bien, le bailli dit « attendre de pied ferme ». Et c'est donc là le mot que nous avons, que prononce, que écrit l'apôtre Paul, pour attendre de pied ferme le Fils. S'entend qu'il y a le vent qui va souffler, la tempête qui sera là, les temps difficiles dans notre vie, mais que nous devons attendre de pied ferme la venue du Seigneur. Or, pour vous, un petit détail, chaque fois qu'il est question du retour du Seigneur, c'est presque une tradition dans tous les textes, eh bien, il y a le mot du ciel ou des cieux et qui est utilisé. On attend des cieux son Fils. Et cela se vérifie donc dans la plupart des textes. Et je voudrais revenir sur cette notion attendre de pied ferme, attendre Jésus. Et il est dit ceci par rapport au Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il y a tout d'abord avec le Fils cette dimension qui est donnée, cette réalité qui est à nouveau affirmée, le Fils et qu'il a ressuscité et des morts. En fait, le ressuscité nous assure une délivrance pour notre propre vie. Et dans ce contexte de l'attente, nous devons être avec une certitude dans nos cœurs, ou pour attendre de pied ferme, nous devons être avec cette certitude dans notre cœur qu'il est ressuscité, que la mort a été vaincue, et que nous aussi, nous serons délivrés parce que lui-même a vaincu la mort. Il est en quelque sorte l'instrument de notre délivrance. C'est ce que nous dit et ce que souligne le texte. On n'est pas délivré par nos propres efforts. On n'est pas délivré par une vie fantastique ou sainte ou je ne sais quoi. On est délivré par l'œuvre du Christ. Vous noterez avec moi ces derniers mots de notre texte qui nous délivre de la colère à venir. Alors, délivré, dans le texte grec, c'est tiré d'un danger. Et donc, le texte nous dit qu'il y a danger en la demeure. Et le texte évoque ce danger, c'est la colère à venir. C'est évidemment de la colère de Dieu dont il est question dans notre texte. Alors, je le sais, on répugne, n'est-ce pas, à parler de colère aujourd'hui. Et beaucoup de nos contemporains et de nos chrétiens ne veulent pas parler de la colère de Dieu. Mais le texte biblique nous parle de la colère. Mais ici, comme dans un certain nombre de textes, il est parlé de la colère à venir ou de la colère qui vient. Et dans beaucoup de textes, dans le Nouveau Testament, il y a cette affirmation d'une colère et qui va se manifester. Alors, la colère de Dieu. Vous savez, il y a dans ces temps que nous vivons toutes sortes d'événements. Il suffit d'écouter les informations. On vous parle de cyclones. Il paraît que depuis un siècle, il n'avait pas eu d'aussi fort, d'aussi violent. On vous parle de grippe aviaire. On vous parle de tremblements de terre. On vous parle pas peut-être de la famine qui sévit en Afrique, qui est terrible. On nous parle très peu de quantité de choses qui sont dans notre monde. Alors, il faut faire attention, et je ne suis pas en train de dire « Regardez, chaque chose qui arrive, c'est Dieu qui est en train de punir. » Je ne suis pas en train d'utiliser ces mots, mais je voudrais vous rappeler que dans l'Évangile, il nous est dit de regarder au temps. Et que dans les temps de la fin, qu'il y aura des signes. Et que ces signes, ce sera les tremblements de terre, la famine, toutes sortes de choses qui arrivent étonnantes. Eh bien, je voudrais simplement vous dire ceci. Je crois que ce que l'on entend ici et là sont un signe de la colère qui vient. Sont un signe et qui nous dit qu'un jour, il y aura une colère et une colère forte dont l'Écriture nous parle pour la fin des temps. Alors, ne me faites pas dire que c'est Dieu qui, voilà, tout ce qui arrive, c'est lui. Non, je crois qu'il y a peut-être des conditions climatiques ou peut-être la main de l'homme et plein de choses de la main de l'homme. Mais je crois qu'il y a au-dessus un Dieu souverain, un Dieu qui permet. Et il y a un Dieu qui est en train de dire, il y a la colère à venir et la colère qui arrive. Et ce texte est en train de nous dire que nous devons attendre des cieux. son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus. Jésus qui nous délivre et de la colère à venir. Et la plus grande colère qui se manifestera à la fin des temps, c'est de dire à tous ceux qui n'auront pas voulu de lui, vois, le chemin de la perdition, de la fin à jamais sans moi. Alors que de l'autre côté, il y a la vie à toujours avec lui. Ô que nous puissions tirer leçon de ce texte. Nous sommes sauvés, nous dit le texte, pour servir Dieu en attendant son Fils. Tel devrait être un mot d'ordre pour ta vie et pour ma vie. Sauver pour servir le Dieu vivant en attendant son Fils, celui qui vient, on ne sait pas quand, mais qui un jour sera là.